Je vais vous distribuer deux feuilles pour ce matin. Vous allez avoir plein de feuilles ce week-end. Une première feuille qui vous donne la trame du week-end du côté du contenu. Pour les horaires, vous avez ça un peu partout dans la maison. Et puis ça, c'est plutôt sur le contenu. Et puis je vous donne une deuxième feuille, juste pour ce matin, qui est la prière des amis de la Trinité. Vous la connaissez sûrement, mais on va la prier ensemble. Je trouve que c'est toujours une bonne introduction de voir quelqu'un qui s'adresse à chacune des personnes de la Trinité, parce que les personnes de la Trinité sont quelqu'un de vivant. Alors, on a toujours un problème logistique dans le week-end des fraternités, c'est qu'on doit donner un thème sur le site un an avant qu'on réfléchisse au conseil sur savoir exactement ce qu'on va faire. Donc, comme le week-end s'adresse... Ça marche plus, si. Comme le week-end s'adresse à des couples qui sont en fraternité, qui sont souples, on pense que si on change le thème pour quelque chose de plus élevé, ça ne peut être qu'à votre avantage. Donc sur un thème sur le papier qui était censé être vivre en fraternité pour vivre en couple, le thème du week-end est devenu vivre de la très sainte Trinité dans notre couple. Vous voyez, c'est une fraternité un peu d'un autre type. Donc vous avez deux papiers. Sur le premier, vous avez la trame avec le contenu de ce qu'on fait, les interventions ce matin, l'intervention de Sœur Jean-Thomas cet après-midi. On essaye toujours dans les week-ends des fraternités, de vous proposer un chemin, un petit chemin pédagogique. Et le petit chemin pédagogique qu'on vous propose ce week-end, c'est le suivant. Vous voyez, parler de la Trinité dans le couple, je ne pense pas que ça soit forcément le sujet de toutes vos soirées, et c'est bien normal. Alors, pour pouvoir parler de la Trinité dans le couple, qui est un sujet hyper difficile, hyper profond, pas hyper difficile, mais hyper profond et pas habituel, ça demande d'abord de choisir de le vivre personnellement. Donc il faut aussi, et c'est par ça qu'on va commencer, essayer de regarder l'histoire de la Trinité dans sa vie personnelle pour pouvoir le partager avec son conjoint. Vous voyez, il y a quelque chose de progressif, c'est que ce matin et cet après-midi, dans ce que je vais essayer de vous dire, on va essayer de regarder les personnes de la Trinité à travers l'évangile de Saint-Jean. On est fraternité Saint-Jean-Coupe, donc l'évangile de Saint-Jean a quelque chose à nous dire. Et là, spécialement, comme par hasard, pas comme par hasard, donc se mettre à l'école de Saint-Jean pour regarder l'histoire de la Trinité, c'est un exercice contemplatif. Donc je vais vous dire des choses, je vais vous donner des références bibliques, tout ça vous pouvez noter. Mais tout ça, c'est au service d'une expérience, d'une rencontre. Il faudrait que la Trinité devienne aussi concrète pour nous, en tout cas c'est mon souhait, qu'elle l'était pour Élisabeth de la Trinité quand elle écrivait cette prière et qu'elle s'adressait à Jésus, enfin, et aux trois personnes individuellement. Le but de ce week-end, c'est ça, voyez, c'est d'essayer d'ouvrir votre cœur à chacun sur cette expérience spécifiquement chrétienne. On ne s'adresse pas à Dieu quand on est chrétien, on s'adresse à un Dieu Trinité. Et Dieu Trinité, ce n'est pas compliqué, c'est juste qu'il y a plus que Dieu, que le Dieu abstrait ou le Dieu créateur, dont on va dire un petit mot ce matin. Il y a un Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Je peux avoir un lien personnel avec le Père, un lien personnel avec le Fils et un lien personnel avec le Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne, ça va évoluer au long des années. Et comme vous êtes deux en couple et que les choses n'évoluent pas de la même manière, et bien vous voyez qu'il va y avoir un chatoiement de la Trinité dans votre couple, au long de votre vie de couple, totalement incroyable. Et pourquoi on vous parle, pourquoi on a choisi au conseil d'essayer de travailler ce week-end sur la Trinité? Justement pour vous montrer que là, en terre chrétienne, vous voyez, on entend plein parler de l'islam, aussi du judaïsme. C'est bien d'essayer de connaître un peu ces religions sœurs, même si elles sont extrêmement différentes des nôtres, notamment sur le rapport à Dieu. Et ce que nous avons comme richesse extraordinaire, c'est pas une supériorité parce que c'est un cadeau gratuit, c'est que Dieu s'invite à notre rencontre d'une manière hyper personnelle. Et donc en fait, on est toujours souvent en dessous de l'exigence de la rencontre de Dieu. Nous, on pense à Dieu dans notre vie. Mais Dieu dans notre vie ne suffit pas à être chrétien. Il faut que le Dieu de Trinité soit présent dans notre vie. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est ça. C'est d'essayer d'entrer dans cette présence du Dieu trois fois saint, personnellement. Cet après-midi, je ferai un petit travail personnel avec un petit questionnaire qu'on vous a préparé pour essayer chacun, avant de vous retrouver en couple en fin d'après-midi, de répondre à trois questions avec plein de petites sous-questions. D'ailleurs, les questions, elles sont belles, elles sont profondes, mais ça va vous demander du temps. Alors, vous avez un quart d'heure par personne de la Trinité, vous allez voir que ce n'est pas beaucoup pour répondre à toutes les questions. Et en fin d'après-midi, on vous permettra un temps d'échange à la fois sur ce questionnaire pour vous dire à votre conjoint, ben, moi, la paternité de Dieu, voilà comment je la vis. Moi, le lien avec Jésus fils, Jésus mon frère, voilà comment je le vis. L'Esprit Saint, voilà comment je le vis dans ma vie. Et puis, on vous proposera, et c'est Sœur Jean-Thomas qui vous introduira à ça cet après-midi, une fiche hyper bien faite qu'elle vous a faite pour entrer dans l'Alexio Divina. L'Alexio Divina, c'est un des temps du couple, un des temps de la frate couple à laquelle vous participez, pour la plupart d'entre vous. Et bien, on est en train de réfléchir au conseil, et là, vous allez... déjà un outil bien élaboré par Sœur Jean-Thomas qui vous propose des questions, des perspectives sur l'Alexio Divina. Donc elle vous fera une petite introduction un peu à cette fiche qu'elle vous propose, qu'on vous propose. Et puis on vous donnera après un petit questionnaire, une demi-feuille, pour que vous puissiez faire ensemble une Alexio Divina sur un lieu trinitaire. Ça marche plus. Sur un lieu trinitaire qui est le début du chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Et on essaye de passer ce week-end avec Saint Jean. Et puis demain, j'essaierai de vous présenter deux autres petites perspectives, justement comment chacune des personnes divines me révèle l'amour de Dieu d'une manière particulière. Puisque Dieu est amour, chaque personne de la Trinité me dit l'amour de Dieu et me le dit d'une manière particulière. Eh bien, je peux entrer dans ce regard d'amour spécifique pour découvrir que, suivant ce que j'ai à vivre, suivant l'intensité et la phase de notre amour conjugal vu de mon côté, eh bien, je peux accueillir le mystère trinitaire, je peux accueillir telle ou telle personne de la Trinité qui me dit quelque chose de personnel. Et puis, dans la deuxième conférence de dimanche, on essaiera de regarder comment la communion trinitaire est source de la communion conjugale. C'est des grands mots, vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est un peu contemplatif. Donc, vous voyez, c'est un week-end quand même... au cœur de l'hiver, pour vous réchauffer le cœur, où on essaye avec vous de vous donner un regard contemplatif sur votre couple. Parce que dans le quotidien, vous n'avez pas tellement le temps, et nous non plus, et on a tous besoin de partir en retraite de temps en temps pour se reposer la vraie question: que vaut notre couple en face de Dieu ? Vous allez voir qu'autant dans le questionnaire que dans ce qu'on va essayer de vous dire aujourd'hui et demain, on n'a pas tellement centré ça sur la famille, parce que la famille, vous êtes des experts S-famille. Mais ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse ce week-end. Moi, je vais m'intéresser à vous, parce que votre famille, elle vaut ce que votre couple vaut. Et que si vous nourrissez votre couple en profondeur, eh bien votre famille sera encore plus nourrie en profondeur. Ce n'est pas par la famille que vous nourrissez votre couple, du côté contemplatif, c'est par votre cœur et votre cœur de couple en face de Dieu et en face du mystère trinitaire, que vous pouvez nourrir tous ceux qui vous aiment et que vous aimez et qui vous sont confiés. Alors je prends, pour commencer, et après je vais encore vous dire des toutes petites choses, la prière d'Élisabeth de la Trinité. Vous savez qu'il y en a d'autres, hein, des belles prières trinitaires, mais celle-là c'est la plus connue. Puis c'est quelque part aussi, c'est pas quelqu'un qui est dans votre état de vie, c'est pas une épouse au sens de la terre, mais c'est une croyante au début du XXe siècle qui vit du mystère trinitaire et qui a choisi d'associer sa vocation à la Trinité. Elle s'appelle Élisabeth Cattès de son nom civil, et en religion elle s'appelle Sœur Élisabeth de la Trinité. Il faudrait qu'on soit tous de la Trinité. Quand vous vous dites bonsoir ce soir en couple, vous dites bonsoir Géraldine de la Trinité, bonsoir Tuc Dual de la Trinité. Ça sera relevé la manière dont vous vous regardez, pas qu'elle aura des pâquerettes au quotidien, mais ça va lui donner une dimension contemplative. Alors je vous lis cette prière d'Élisabeth Trinité comme une prière. Restez assis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, et que chaque minute m'emporte plus loin
dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma forme, tout adorante, tout livrée à votre action créatrice. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur. Je voudrais vous couvrir de gloire. Je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Venez en moi comme adorateur, comme réparateur et comme sauveur. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter. Je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Ô mon aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, ne voyez en elle que le bien-aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie, ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs, ainsi soit-il.
Alors on a presque tout dit, vous voyez, quand on a dit ça. Ce qui est beau, vous voyez, c'est qu'on pourrait la commenter à l'infini. Cette prière, je ne vais pas le faire là, parce qu'on va entrer dans Saint Jean. Mais vous voyez bien, j'ai exprès structuré la prière, elle ne l'écrit pas exactement comme ça. La division qu'elle fait n'est pas tout à fait celle-là dans le texte originel, mais je l'ai un peu transformée en laissant la structure, mais en vous manifestant son lien avec la Trinité, le Christ, avec ses différents noms, l'Esprit Saint, le Père, et puis un retour sur la Trinité. Pour bien montrer le regard de, vous voyez, Élisabeth de la Trinité n'est pas trithéiste, n'est pas polythéiste, elle ne s'adresse pas à trois dieux, elle s'adresse à la Trinité. Et dans sa contemplation et son amour de la Trinité, elle découvre chacune des personnes. Alors vous le voyez aussi dans la longueur du texte tel qu'elle l'a écrit, dans sa prière qu'elle a écrite en 1904, que son lien le plus explicite, c'est avec le Christ. Peut-être que pour vous, le lien le plus explicite de votre cœur, c'est avec le Père ou avec l'Esprit Saint. Et peut-être qu'au long de votre vie, cette polarité, mais pour moi, ce qui m'aide à comprendre la vitalité, c'est une image complètement idiote, mais les images complètement idiotes, on va en utiliser quelques-unes ce week-end pour rendre les choses un tout petit peu plus visibles. Elles aident un tout petit peu à comprendre. Il faut imaginer le mystère de la Trinité d'une manière visuelle, vous voyez, un peu comme un triangle, je n'ai pas de triangle là, mais vous imaginez un triangle là. Trois points au lieu de quatre comme sur ma feuille, et que le mystère de la Trinité, c'est un mystère qui est vivant, et donc au long de notre vie, chacune des personnes peut être à son tour celle qui est la plus en face de nous, ou à tel moment de la journée, ou à tel moment de notre vie. Et quand on est à l'adoration, ben, on a un lien particulier avec le Christ. Si l'Esprit Saint vous saisit d'une manière spéciale, eh bien vous pouvez vous rendre plus dépendant de l'Esprit Saint. Vous voyez, chacune des personnes, sur un espèce de kaléidoscope tournant, peut se rendre à un moment de ma journée, à un moment de ma vie, à un moment de la vie de mon couple, au cours d'une épreuve plus ou moins présente. Et c'est ça que je voudrais qu'on essaye d'éveiller un petit peu ensemble ce week-end, et que la petite prière des abbés de la Trinité en introduction, je trouve, montre d'une manière admirable. Elle exprime son lien avec le Christ, mon Christ aimé, au Verbe éternel, parole de mon Dieu, ô mon astre aimé, elle lui donne différents petits noms. On avait fait ça quand j'étais encore en Autriche, une fois, à la procession de Marie-Madeleine, le jour de la résurrection, au petit matin.
Le dimanche de Pâques, dans les couvents, dans certains couvents, on fait une petite procession, on en fait une ici. Et on avait un groupe de jeunes en retraite chez nous, qui avaient entre 18 et 25 ans. On a fait une procession dans le jardin, avec tous les jeunes, en leur disant, derrière le Saint-Sacrement, de s'adresser à Jésus pour dire à Jésus qui il était pour eux. Et ça a duré 40 minutes. Il y avait une cinquantaine de jeunes. Ça a duré 40 minutes, on a tous fini en pleurant devant le Saint-Sacrement, tellement c'était beau ce que chacun disait au Seigneur qu'il était pour lui. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut inventer notre couple, j'en suis pas encore là, on va réfléchir un peu en profondeur. Et voilà. Osons ne pas diminuer ce que Dieu veut nous dire, que le mystère trinitaire, c'est une source inépuisable, parce que Dieu est infini, et parce que chaque personne veut avoir un lien personnel avec moi tout au long de ma vie. Et c'est encore pire que l'ange gardien. Est-ce que vous avez un lien personnel avec votre ange gardien? Ne répondez pas tous à la fois. Bien. Votre lien avec chacune des personnes de la Trinité, il est encore 100 fois plus vivant que votre lien avec votre ange gardien. Vous voyez le travail qu'il nous reste à faire. En un week-end, on ne peut pas faire ça. Je peux juste vous donner un peu goût de ça pour votre cœur de croyant. Pour que notre foi soit vraiment une foi chrétienne, une foi trinitaire, on a des mots compliqués pour dire des choses simples, mais vous verrez, j'espère qu'on va voir ensemble que c'est des belles choses qu'on peut découvrir ensemble. Et donc, je vous invite à l'audace ce week-end. Alors pourquoi on commence par l'évangile de Saint Jean? Eh bien parce que d'abord le week-end s'adresse à des frères de Saint Jean, et puis ensuite parce que Saint Jean nous dévoile le mystère de la Trinité d'une manière totalement incroyable. Alors ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est de regarder quelques aspects de la paternité de Dieu dans l'évangile de Saint Jean, et puis cet après-midi on regardera quelques aspects du mystère de Jésus, du mystère du Verbe et du mystère de l'Esprit-Saint dans l'évangile de Saint Jean. Alors encore une fois, ce que je vais vous dire ne prétend pas du tout épuiser ni la richesse de la parole de Dieu, ni votre contemplation personnelle. Vous pourrez faire le travail en relisant indéfiniment l'évangile de Saint Jean et de chercher le visage du Père, le visage du Fils et le visage de l'Esprit-Saint. Et encore une fois, la perspective que je choisis, ce n'est pas de faire de l'exégèse. Sœur Jean-Thomas vous expliquera beaucoup mieux que moi cet après-midi comment faire une lectio divina intelligente. Mais je voudrais balayer un petit peu quelques aspects de la théologie spirituelle de Saint Jean autour des personnes divines. Et donc, il faut vraiment demander à l'Esprit Saint aujourd'hui d'éclairer nos cœurs en profondeur pour que ce qu'on va lire ne soit pas juste des mots, mais que ça touche notre cœur. Et on va voir que presque chaque parole de la révélation des trois personnes divines, et en particulier du Père que Saint Jean nous fait, peut être objet d'un abîme, vous voyez, l'abîme des grandeurs dont parle les évêques de la Trinité à la fin de sa prière, eh bien, que cet abîme des grandeurs peut nous être un peu donné. Dans la bulle de proclamation de Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, le pape Jean-Paul II avait souligné que Thérèse de l'Enfant Jésus, en lisant l'Écriture, avait une lumière sur la parole de Dieu qui était infuse et qui n'était pas du tout celle des théologiens. Vous vous souvenez peut-être que dans le manuscrit B, elle reprend le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean et le réécrit pour elle. C'est un des exemples où on voit Thérèse de l'Enfant Jésus qui rentre dans cette prière du Fils bien-aimé de l'évangile de Saint Jean, cette prière du cœur de Jésus, et qui la fait sienne. Alors il faut que cette lecture de quelques passages autour des trois personnes divines nous aide à nous laisser toucher par le cœur de Dieu, par l'amour infini de Dieu Père, de Dieu Fils, de Dieu Verbe et de Dieu Esprit Saint, qui nous dit l'amour de Dieu pour nous. Et vous allez voir que c'est vraiment presque effrayant, tellement c'est beau et tellement on n'est pas habitué à s'appliquer à ce regard. Et peut-être c'est aussi
un lieu, parce qu'on réfléchit au conseil là-dessus, d'essayer de savoir qui est Saint-Jean pour les frères de Saint-Jean. Oui, pourquoi les frères de Saint-Jean Croupe s'appellent frères de Saint-Jean? Est-ce que c'est juste parce que c'est un frère de Saint-Jean et puis des couples qui ont commencé à réfléchir sur un petit mouvement de couple? Ou est-ce que l'évangéliste Saint-Jean a quelque chose à dire à la manière contemplative dont nous essayons de vivre les quatre temps de la frate, de vivre notre vie de couple, de vivre en fraternité et de vivre en Église? Et donc, l'évangile de Saint-Jean, d'une certaine manière, donne son identité et son originalité, à cette contemplation trinitaire et aussi à cette vie spirituelle. Et donc, notez pas toutes les références parce que je vous en donnais beaucoup, mais notez-en quelques-unes qui peuvent éventuellement cet après-midi, dans le temps de questionnement personnel que vous pourrez vivre, essayer de vous accompagner pour retrouver dans la parole de Dieu des lieux d'accroche pour comprendre qui est le Père, qui est le Fils et qui est l'Esprit Saint. Donc, je commence par regarder le Père. Si on prend le prologue de Saint Jean, on voit tout de suite que la contemplation de Jean ne commence pas par dire le Père explicitement, mais à nous dire Dieu. Au commencement était le Verbe, ou dans le commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Je prends ces trois versets, surtout 3, 4, 5. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Là, on nous parle de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. On nous parle du Verbe et de Dieu. Alors, le Verbe, j'y reviendrai tout à l'heure, cet après-midi, quand on regardera la deuxième personne de la Trinité. Mais on nous parle de Dieu en nous disant que tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Dieu est le créateur nécessaire à toute chose. Vous voyez, rien que ça, on pourrait arrêter notre week-end là. Dieu est le créateur nécessaire à toute chose. Est-ce que Dieu est nécessaire à toute chose pour ma vie, pour mon travail, pour ma santé, pour mon couple, pour mes amitiés, pour mes services d'église, pour ma vie civique, pour porter les luttes, pour rendre grâce, pour prier? Tout fut par lui. Et est-ce que je prends conscience que Dieu m'a voulu, que Dieu est là, que Dieu est nécessaire à mon existence? C'est pas si facile que ça, de vivre de cette nécessité de Dieu. Est-ce que ma vie est vraiment ancrée, ma vie profonde est ancré dans cette nécessité, cette unique nécessaire qui fascinait Charles de Foucault et dont Jésus parle aussi à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Et Jésus ne dit pas quelle est ce nécessaire. Charles de Foucault interprète ce unique nécessaire en disant, et on le reverra parce que c'est typique de l'évangile de Jean, tout ce que Jésus invite à voir, ça a un caractère personnel, personnalisant, personnifié. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole que Dieu dit, c'est quelqu'un. Les actes que Dieu fait, c'est de donner son Fils. Donc Jésus est au centre de cet unique nécessaire. Il est l'unique nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma foi? On fait tous pareil, y compris dans la vie religieuse. On prie un petit moment le matin, pendant nos activités, on s'arrête au déjeuner pour prier et célébrer la messe, et puis on a les vêpres et l'adoration. Puis le reste du temps, on a nos activités. Comme c'est difficile de vivre une vie vraiment contemplative dans tout ce qu'on a à faire et de vivre de cet unique nécessaire. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dieu est vie. Parce que Dieu donne vie à tout ce qui est vie en moi, tout ce qui est important et tout ce qui a besoin d'avancer, tout ce qui a envie d'avancer. Est-ce que tous mes désirs sont portés par un lien avec Dieu où Dieu éduque mes désirs les plus profonds? On reverra ça. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son acte d'offrande, qui disait qu'elle avait des désirs infinis. Et puis les deux prêtres à qui elle a montré ça ont retoqué théologiquement ces désirs infinis en disant « Mais non, les désirs ne peuvent pas être infinis. Les désirs, ils sont forcément immenses. » Alors dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux que fait Thérèse de l'Enfant Jésus, on a cette platitude « J'avais des désirs immenses. » Ouais, bon. Et alors les théologiens qui sont repassés derrière, ces deux théologiens qui étaient prêtres, qui avaient prêché la retraite au Carmel, plus l'évêque de Bayeux-Lisieux à ce moment-là, avaient dit, on ne peut pas dire qu'on a des désirs infinis. Ben, les théologiens aujourd'hui disent, ben si, si on regarde l'objet de notre désir, si on désire Dieu, comme Dieu est infini, eh bien quand on désire Dieu, on désire quelque chose d'infini. Donc le désir en nous, du côté de son objet, a la légitimité d'être infini. C'est bien d'ailleurs, ça, ça nous fait grandir, et de se dire, il y a en moi quelque chose qui m'invite à plus grand que moi. Et ça, on va voir que c'est la paternité de Dieu qui ouvre ça en moi. Cette certitude d'être porté par quelque chose de tellement plus grand que moi que je n'en aurais jamais fait le tour. Ma vie chrétienne est tellement audacieuse dans le regard de Dieu que je ne pourrai jamais la vivre à la hauteur de ce que Dieu attend de moi. C'est pour ça qu'on a besoin que Jésus vienne sauver en moi ce qui ne peut pas répondre à l'audace de Dieu en moi. Jésus sauveur, ce n'est pas d'abord uniquement pour le péché, bien sûr, c'est le péché, et le péché restera en nous jusqu'à la fin des temps. Mais Jésus vient sauver en moi ce qui ne peut pas être à la hauteur de ce que Dieu veut. Et on va voir pourquoi, en regardant ces trois personnes de la Trinité en Saint-Jean, petit à petit, notre cœur souffre. Frère Sébastien-Marie, de manière prophétique, l'a dit tout à l'heure, je vous dirai un mot sur ma thèse, évidemment. Parce que l'Église, je vous le dis tout de suite pour que ça ne vous saoule pas et que vous me pardonniez de vous répéter ça de temps en temps, l'Église, c'est justement ce qui va me permettre de m'enrichir de vous pour présenter à Dieu dans ma prière quelque chose d'un peu plus digne de lui. Si je regarde ma prière à moi tout seul, je suis un peu effaré de la profondeur vers le bas de ma prière qui est riquiqui, raplapla, ramollie. Quand il fait froid, j'ai pas envie de prier. Quand il fait chaud, non plus. Vous voyez, faut juste à température ambiante, j'arrive à peu près à prier, mais pas trop longtemps. Parce que j'ai mal au dos, je vieillis, j'ai les cervicales qui me font mal. Voilà quoi. Et ben voilà ma prière quotidienne. J'ai rencontré un jour un chartreux à Lyon-Perrache qui partait en ermitage. Un petit chartreux avec une énorme valise, il partait en Espagne. Et on a parlé de la vie contemplative, comme ça, sur le quai de la gare. Et il m'a dit, je vis chaque jour comme si Dieu n'existait pas. Parce que je n'ai aucune évidence de la présence immanente de Dieu au tréfonds de mon âme. Mais je sais qu'il est là. Et je veux lui donner ma vie et je veux continuer à lui donner ma vie. Moi, ça m'avait émerveillé de voir ce petit chartreux avec sa grosse valise qui me disait qu'il vivait tous les jours comme si Dieu n'existait pas. Parce qu'il n'avait pas de vie mystique sensible où il était rempli de la présence de Dieu. Mais il choisissait de tourner toute sa vie vers ce plus grand que lui. Et bien c'est tellement difficile de le faire tout seul que si je le fais tout seul, je risque de me lasser, d'avoir plus envie, de ne plus savoir comment faire. Alors que si je choisis avec vous, mes frères et sœurs, eh bien, ce petit kaléidoscope de ce que vous arrivez à vivre et qui est un peu différent de ce que j'arrive à vivre va me tirer vers Dieu pour une prière plus contemplative. Et ça, c'est ce qui donne vie à ma prière. Ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette vie, vous voyez, ce n'est pas simplement une vie abstraite, c'est aussi une vie qui éclaire. On va le revoir dans la manière dont Jésus nous révèle le Père dans l'évangile de Jean. Le Père et le Fils donne une lumière pour notre vie. Le Père nous éclaire par ce que le Fils nous enseigne, par ce, en deux mots, à travers ce que le Fils nous enseigne. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Au verset 5. Et Dieu est source de toute lumière, y compris dans les ténèbres les plus profondes. Comme c'est difficile à vivre quand on est dans les ténèbres. C'est hyper beau de dire ça aux autres. Ah, tu sais, Dieu va t'aider, Dieu est avec toi. Je viens d'aller voir ma petite maman à l'EHPAD de la Verrière, la dernière année de sa vie, quand j'étais rentré d'Autriche en 2010, et qui me disait, ne me parle pas de la manière dont Dieu va m'aider à porter la souffrance, parce que je souffre chaque instant. Je n'ai pas besoin de paroles pour me faire comprendre quelque chose sur la souffrance. J'ai juste besoin d'être porté pour la vivre à chaque instant. Et c'est pour ça qu'on est tellement démunis devant notre propre souffrance et devant celle des autres. Et bien pourtant, la parole de Dieu nous dit, Dieu, la lumière de Dieu, lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisi. La lumière de Dieu sera toujours plus forte que les ténèbres.
Je ne vous ai pas amené la représentation parce qu'il faut brancher les visiteurs et tout ça, mais vous pouvez retrouver ça à droite et à gauche.
Et la première représentation historique de la Trinité dans les enluminures, elle est extraordinaire. C'est trois cercles concentriques, et le cercle le plus extérieur, il est noir. Et puis plus on va vers l'intérieur, le deuxième cercle est violet et le troisième cercle au centre, il est rouge. Quand on regarde la Trinité, on voit du noir. On ne voit pas du noir, j'espère pas trop, mais on voit du noir. Et plus on entre dans le mystère trinitaire, plus le mystère s'éclaire, mais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et ça, c'est une manière symbolique, évidemment, mais c'est aussi une manière hyper profonde de dire ce mystère trinitaire, que la lumière de Dieu dans ma vie est toujours plus forte que tout ce qui peut m'enténébrer, la perte du sens de Dieu. Vous voyez, on a découvert ça après la mort de Mère Teresa, qui avait vécu toute sa nuit, toute une partie de sa vie, une nuit spirituelle effroyable, qui avait choisi d'offrir ça à Jésus. Là, vous pouvez découvrir ça dans la vie de Thérèse de l'Enfant Jésus. Je pense que la prochaine biographie de Jean-Paul II vous dira la même chose. Il y a toujours ces ténèbres. Et Saint Jean de la Croix nous parle de la nuit d'une manière absolument effrayante. On raconte que le novice Saint Jean de la Croix, dans son couvent, dans le sud de l'Espagne, était sur le bord de sa fenêtre la nuit en train de regarder à quoi ressemblait la nuit cosmique. Puis dans ses écrits, il a développé les trois facettes de la nuit. Le crépuscule, c'est la nuit des sens, et c'est quand les sens sont perdus, c'est qu'on ne voit plus ce qu'on voyait d'habitude, on ne voit plus les formes des choses, on ne voit plus la couleur des choses, donc la lumière du jour disparaît. Ça, c'est la première phase de la nuit, on entre dans la nuit, ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens. Après, la profondeur de la nuit, Saint Jean de la Croix l'appelle la nuit de l'esprit. C'est que l'esprit humain, en face du mystère de Dieu, est complètement dépassé. Et ça, la mauvaise nouvelle de Saint Jean de la Croix, je lui attribue la paternité de ce qu'il dit, je me cache derrière ça, c'est plus facile, c'est que ça dure toute la vie. Parce que la troisième phase de la nuit qui ouvre à autre chose, c'est l'aurore. Et l'aurore, c'est l'entrée dans la vie éternelle. Donc la vie chrétienne, pour Jean de la Croix, se réalise dans la nuit profonde. Et bien dans cette nuit profonde, ça c'est du côté du ressenti, du côté du vécu, et du vécu aussi de la prière. Mais dans cette nuit, la lumière lutte dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas saisi. Dieu reste une lumière pour ma vie, Dieu reste là, tapis au creux de ma vie. Vous voyez, on a déjà dans le prologue de Saint Jean, un peu comme quand on lisait la prière des abbés de la Trinité tout à l'heure, déjà du souffle, quoi. C'est trois versets de rien du tout. Et trois versets qui peuvent nous faire prier et ouvrir notre cœur d'une manière totalement incroyable. Et ça, c'est l'ouverture de l'évangile de Jean sur quelque chose d'incroyablement audacieux. Vous connaissez, on a mis ça dans le commentaire de Saint Thomas, de Saint Jean. Saint Thomas dit que les trois évangélistes, les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, parlent de l'humanité de Jésus, alors que Jean révèle la divinité du Christ. C'est vrai et pas vrai, je ne peux pas dire sur les choses, mais en tout cas, à l'aune du prologue, qui n'existe que dans l'évangile de Saint Jean, qui n'existe pas dans les autres évangiles, eh bien, on a quelque chose comme ça, qui nous ouvre sur le mystère de Dieu d'une manière vraiment contemplative. Et il faut qu'on garde ça dans tout notre week-end, dans toute notre vie de prière, pour que la Trinité demeure quelque chose d'hyper contemplative. Et quand on s'use dans la vie de prière, quand on s'use dans la vie du couple, eh bien, une thérapie de couple, ça peut aider, un week-end en amoureux, ça peut aider, mais il y a quelque chose qui peut aider aussi, c'est de se remettre en face de la Trinité, de reprendre le questionnaire qu'on va vous donner cet après-midi, et de vous dire, eh bien, le mystère trinitaire pour toi, c'est quoi? Donne-moi un peu des paillettes de ta contemplation du mystère trinitaire, pour enrichir, pour réveiller ma contemplation à moi qui s'épuise. Alors un point important, après, vous voyez, ce premier regard sur Dieu qui n'est pas encore spécifié, mais qui nous ouvre à une dynamique qui est celle ensuite de tout l'évangile de Jean. Et un point central de ce que je voudrais regarder avec vous, c'est tout simple, mais c'est hyper profond, c'est Jésus qui nous révèle Dieu le Père. On n'a pas un enseignement, vous voyez, on n'a pas un enseignement dogmatique que vous lisez dans les traités de théologie
sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et sur Dieu l'Esprit Saint. La catéchèse de Jésus, lundi on va parler de Dieu le Père, mardi on va parler du Fils et mercredi on va parler de l'Esprit Saint.
Jésus ne révèle pas les personnes divines en elles-mêmes, il les révèle dans leur action commune. On a un petit signe de ça dans ce que la liturgie chrétienne a gardé, mais on a la fête de la Trinité dans la liturgie, mais on n'a pas la fête de chacune des personnes divines. Il n'y a pas la fête du Père dans l'année liturgique, il n'y a pas la fête du Fils et la fête de l'Esprit Saint. L'Église n'a jamais voulu faire ça. Par contre, on a quelque chose qui nous montre les personnes divines à l'œuvre. Le plus connu, c'est la Pentecôte, évidemment. C'est l'Esprit Saint. La Pentecôte, c'est pas la fête de l'Esprit Saint. C'est la fête de la survenance de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église. Donc c'est l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église. La fête de Dieu, la fête du Très-Saint-Sacrement, c'est pas la fête du Saint-Sacrement tout seul. Le Saint-Sacrement dans son hostie et dans sa solitude absolue. C'est le Saint-Sacrement qui nous invite à vivre l'Eucharistie, c'est-à-dire le lieu où Jésus se donne pour nous sauver et nous révéler à la paternité de Dieu. Donc c'est une action, le Saint-Sacrement. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de nos frères orthodoxes. Allez, je vais dire une hérésie, qui n'en est pas une hérésie œcuménique. Peut-être qu'on a aussi besoin de nos frères protestants, qui nous disent quelque chose sur la présence réelle de Dieu, pas dans les saintes espèces, ça c'est plus difficile pour eux à concevoir, quoique ça dépend des confessions luthériennes et calvinistes, mais de la présence de Dieu dont la finalité est de venir dans la communauté des croyants. La finalité de l'Eucharistie, c'est pas d'être devant l'hostie, la finalité de la présence sacramentelle, c'est la présence de grâce. À la Chartreuse, on n'a pas le Saint-Sacrement dans sa cellule. Le Saint-Sacrement, il est dans l'église de la Chartreuse. On vit de l'inhabitation de la Trinité dans son âme, 40 ans en cellule, et c'est possible. Vous voyez, la présence sacramentelle, elle est en vue de la présence de grâce, et elle est en vue d'une amitié surnaturelle, d'une amitié sponsale entre Jésus et moi, qui est dans la grâce. Et puis, la miséricorde, Sœur Faustine, le pape Jean-Paul II, qui a bien assuré le dimanche de la miséricorde après Pâques, eh bien, c'est pour entrer dans cette paternité de Dieu qui est en train de se donner. La miséricorde, ce n'est pas le thème, vous voyez, je prends toujours ça comme analogie, aux enfants ou aux petits-enfants sont scouts, il y a les vikings la première année, puis la deuxième année, il y a les schtroumpfs, et puis après, il y a les pirates, et bien, il y avait... l'année du Père, l'année du Fils avec Saint-Esprit, le jubilé de l'année 2000, l'année de l'Eucharistie, et puis l'année de la Miséricorde. Qu'est-ce qu'a fait le pape François à la fin de l'année de la Miséricorde? Tout le monde se disait, il va trouver un autre thème pour l'année qui vient. Il a signé une exhortation apostolique Miséricordia et Misera, que vous pouvez lire sur le site du Vatican, qui n'est pas très longue, qui dit, l'année de la Miséricorde n'est pas terminée. J'invite l'Église à continuer à vivre de la Miséricorde dans toute sa vie. Il faut que la paternité de Dieu à l'œuvre dans la vie de l'Église continue. Vous voyez, nous, on passait au thème suivant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans les paroisses, dans les mouvements, dans les écoles, pour mettre en œuvre le nouveau thème de l'année, quoi. Au frère de Saint-Jean, eh ben non, l'année de la miséricorde n'est pas finie. Elle continue dans la vie de l'Église. Dieu ne s'est pas donné un programme en disant l'année 2015-2016, c'est l'année de la miséricorde, et après, on passe à autre chose. Dieu reste miséricordieux. Toute son éternité. Qu'est-ce qu'on va en faire dans sa vie? De se découvrir aimé par un Dieu de miséricorde qui continue et qui ne cesse pas d'être miséricordieux. Si je reprends les premières lignes du prologue, pour voir que Jésus nous révèle le Père, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Oh, l'horreur théologique pour une tête juive! Il y a quelque chose avec Dieu. Dieu n'est pas tout seul. Dieu n'est pas dans une solitude absolue. Si je le dis de manière forcée, Dieu n'est pas que monothéiste. Dieu a quelqu'un avec lui. Alors est-ce que c'est le yin avec le yang? Quel est ce deuxième? Et on va le revoir après. Que quand Jésus révèle le Père, Dieu comme un Père, ça heurte la sensibilité des Juifs. Et c'est normal. Pour un monothéiste, Dieu ne peut pas avoir un fils. Ça doublerait l'unicité de Dieu. Comment comprendre que si Dieu a un fils, ça n'enlève rien à ce qu'est Dieu? Voilà le mystère chrétien. Voilà le mystère en face duquel on se trouve tout de suite. Dieu est un Dieu de relation, nous dit le prologue. Dieu ne se suffit pas, décide de ne pas se suffire à lui-même. Vous voyez l'exigence pour un couple, vous voyez l'exigence pour une vie fraternelle, l'exigence pour une vie chrétienne.
décider de ne jamais se suffire à soi-même. On va le revoir demain, surtout décider de devenir soi par l'autre. Comment j'ai besoin de l'autre pour devenir moi ? Jusqu'où j'ai besoin de l'autre pour devenir moi ? Vous allez voir que la Bible nous dit des choses totalement effrayantes, si on les prend au sérieux, totalement effrayantes dans le bon sens, tellement ça nous déloge. Et vous allez voir que mon souhait le plus grand, et je prie pour ça tous les jours pour moi, pour vous, pour la Sainte Église de Dieu, que l'on redécouvre dans le travail que je fais, théologique, c'est redécouvrir que nous sommes d'abord l'Église, nous sommes d'abord un « nous » avant d'être « soi ». La philosophie du siècle des Lumières, en développant un individualisme forcené, a mis le sujet, le pseudo-sujet, au centre de tout. Il faut d'abord que moi, je sois moi, pour qu'ensuite je puisse vivre quelque chose avec toi. Eh bien, ce n'est pas une conception biblique, ni de l'Ancien Testament, ni du Nouveau Testament, ni de la vie de l'Église. Nous ne sommes pas d'abord des individus qui essayons péniblement de nous rassembler. Nous sommes d'abord le peuple des croyants choisi par Dieu pour cheminer ensemble. Et c'est au sein de ce peuple de Dieu que je trouve ma place. Et c'est normal qu'il y ait une diversité. Je suis en train de travailler dans la troisième partie de ma thèse sur l'Apocalypse et je vous dis une chose hérétique qui me fait comprendre pourquoi on n'a jamais dit utiliser l'Apocalypse pour faire l'ecclésiologie. C'est que, bizarrement, si on se pose la question de la multiplicité des églises, eh bien elle existe en Dieu, la multiplicité des églises. En Dieu, dans l'Apocalypse, il y a toute une trame extrêmement subtile des sept esprits qui sont devant le trône de Dieu. Et ces sept esprits, c'est ceux qui sont envoyés dans le monde, dans l'Église. Et ça, c'est gênant, vous voyez, pour l'Église, une absolument, une éternellement, une depuis toujours, une et seulement une. Je ne vois qu'une tête. Et bien l'Apocalypse ne dit pas ça. L'Apocalypse dit qu'il y a sept esprits de Dieu qui sont envoyés par le monde, qui sont les sept yeux du Christ, et que ces sept yeux du Christ, c'est son regard sur l'Église dans sa multiplicité. Et ça, c'est une vision céleste de Jean dans l'Apocalypse. C'est hyper dérangeant, ça. Et que la multiplicité, déjà, elle fait partie de la Trinité, mais que la diversité des Églises, elle remonte jusqu'à Dieu. Et cette multiplicité des Églises, elle ne retire rien à son unicité. Vous voyez, c'est ça aussi où nous, on est dans la divinité, c'est soit la multiplicité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'église une. Il y a une église une, mais dans la multiplicité. Comment ça va se vivre ? Eh bien, il va y avoir des charismatiques, des traditionnalistes et des tradismatiques. Peut-être que vous êtes un peu tout ça. Et nous, ce week-end, on vous propose ça. On est traditionnaliste dans la théologie, enfin moi, un peu moins que certains autres, à cause de l'œcuménisme. Frère Sébastien-Marie va vous faire vivre quelque chose avec l'Esprit Saint ce soir. L'Esprit Saint va vous faire vivre quelque chose à travers la veillée de prière avec Frère Sébastien-Marie. Sœur Jean-Thomas, avec la parole de Dieu, essaye de vous introduire à une lecture contemplative. Vous voyez, il y a des éléments charismatiques, des éléments traditionnels, il y a des éléments personnels, il y a des éléments intimes. L'Église, elle est aussi sainte dans sa richesse. Et ça, on le voit en Dieu. Dieu n'est pas tout seul. Dieu vit la communion. C'est pour ça qu'on va en parler demain, la communion trinitaire. Dieu, dans son mystère trinitaire, dit quelque chose de l'altérité essentielle pour un couple. On va essayer de réfléchir là-dessus ce week-end. Pourquoi, je vais vous le dire de manière un peu humoristique, pourquoi vous êtes mis le boulet de votre conjoint au pied pour toute la vie ? Est-ce que vous voulez bien réfléchir ce week-end à ça avec moi pour essayer de voir s'il est encore temps d'en faire quelque chose? C'est quand même pas banal, ça. Vous subissez un autre qui vous descend votre compte en banque, qui vous rentre la voiture dans les clous de parking, qui oublie les enfants à l'école. Enfin, il y a aussi toutes les choses merveilleuses, mais évidemment, ça vous les connaissez, je fais exprès de prendre le côté un peu humoristique, mais... Et vous y croyez encore? Ben moi, je vous trouve admirable. Et ben pour essayer de vous encourager à ça, je ne peux pas ne pas vous donner des petits outils bibliques parce que sinon, vous allez désespérer en route. Je le sens chez certains, chez ceux qui sont mariés depuis longtemps. C'est facile de désespérer. Eh bien non, parce que en Dieu, la communion est choisie par Dieu pour être source de quelque chose. Et donc la communion entre vous, l'altérité que vous avez choisie pour toute la vie, elle vous fait devenir quelque chose que vous ne deviendriez jamais tout seul. Bienheureux mariage qui m'a valu un tel conjoint. En paraphrase de bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Jésus nous révèle le Père et nous le fait connaître.
Dieu se fait proche pour qu'on le connaisse. Vous voyez, c'est ça le mystère chrétien, c'est que Dieu n'est pas loin. Dieu a envie de se laisser toucher, Dieu a envie de se laisser regarder, Dieu a envie de se laisser expérimenter l'expérience de Dieu. Saint Jean nous propose ce regard contemplatif. Jean 1,14, toujours dans le prologue, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et Dieu qui habite parmi nous. C'est à la fois le Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, et c'est à la fois bien plus que ça, pas simplement Dieu avec nous qui marche avec nous, c'est Dieu qui nous sauve.
Le père Guy Gilbert, à un rassemblement de l'Emmanuel à Paray-Monial, à la fin du rassemblement, dit « Louons l'Emmanuel !» Et a remonté. Et a dit « L'Emmanuel, Dieu avec nous. » Grand silence.
La communauté de l'Emmanuel, ou la communauté Saint-Jean, ou la communauté paroissiale, ou la communauté de ma phrase, tout ce que je vis et qui est beau, je le vois facilement. Dieu avec moi qui transforme ce que je vis pour lui donner tout son souffle, Dieu qui vient à la rencontre de mon humanité, ça demande un regard plus contemplatif. Nul n'a jamais vu Dieu, 1,18, le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître.
Vous voyez cette espèce de mouvement incroyable de l'unité du Père et du Fils, où le Fils se retourne du Père vers nous. Si j'ai le courage, je vous ramènerai une représentation hyper belle de la Trinité moderne, faite par un peintre suisse, qui montre justement que cette unité des trois personnes divines, eh bien, le Fils accepte de quitter la Trinité pour venir dans l'humanité. Il y a trois trônes, et puis il y a l'incarnation, eh bien, le Fils quitte le trône en se déshabillant, en déposant son vêtement pourpre, pour descendre un escalier et venir à la rencontre de l'humanité. C'est hyper beau. Et cette espèce de dépouillement du Fils de Dieu qui sort de cette intimité trinitaire pour venir à la rencontre de l'homme. Ce sera une des questions cet après-midi pour vous, chacun d'abord, avant de le partager avec vous si vous avez envie ou si vous l'osez, c'est est-ce que j'ai fait l'expérience de la proximité de Dieu dans ma vie? Comment Dieu est venu à la rencontre de mon cœur? À quel moment, même s'il n'y a qu'un petit moment fugitif dans ma vie, est-ce que je fais déjà tout ça? Est-ce que je me suis déjà dit ça à moi-même?
Jésus nous fait connaître le Père en se laissant connaître lui-même. Et il nous révèle l'identité du Père et du Fils dans leur action commune. Et une des premières occurrences du lien du Père et du Fils, c'est Jean 3,35, le Père aime le Fils. Vous voyez ce qui nous est dit du Père et du Fils? Alors là, je regarde le Père, mais on pourrait regarder la même citation du côté du Fils. Le Père aime le Fils. C'est une source d'amour éternel qui est l'amour du Père pour le Fils. Le regard du Père sur le Fils, c'est son amour. Et un Dieu amour, ça dérange toutes nos conceptions. On pourra beaucoup travailler sur Aristote. Et Aristote, Dieu est un premier moteur immobile en dehors du mouvement de l'univers et qui, d'une manière mystérieuse, donne son mouvement à l'univers. L'Aristote génial, 5 siècles avant le Christ, 4 siècles avant le Christ, n'a pas réussi à nommer théologiquement, dans une théologie naturelle, la création. Que Dieu lance le monde dans l'être, aucun philosophe avant le christianisme n'a réussi à inventer ça. C'est bizarre quand même. Cette proximité de Dieu qui reste le Dieu créateur, mais qui s'engage, et encore moins l'incarnation, encore moins cette manière dont Dieu vient à notre rencontre. Eh bien, Jean nous dit, en 3,35 ou en 5,20, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Nous découvrons l'action de Dieu dans l'humanité à travers cette action conjointe du Père et du Fils, de celui qui est la source et de celui qui laisse la source prendre toute la place dans sa vie. Et que ça nous dit déjà un tout petit quelque chose de ce qu'on va voir demain, et vous êtes bien à l'image de ça dans votre couple, l'amour il implique ces deux dimensions. Peut-être la source, il faut quelquefois prendre des initiatives dans l'amour. C'est intéressant de vous accompagner comme couple, parce qu'on a deux versions, et le signe d'un couple qui ne va pas bien, c'est quand la version de l'un en particulier est tellement différente de la version de l'autre, on a l'impression que vous n'êtes pas mariés ensemble. Ça arrive de temps en temps. Recevoir un couple où chacun des deux veut parler à un prêtre, et en fait, on sait que vous êtes mariés, mais quand vous en parlez, on a l'impression que vous vivez deux vies différentes. Et une des manières dont on entend ça quelquefois, et c'est normal, hein, je ne vous fais aucun reproche, parce que c'est bien plus tout pareil dans la vie religieuse, quoi. Parce qu'on n'a pas que un, vous pensez à nous de temps en temps, on n'a pas que un conjoint que vous avez choisi, et nous on a des frères et des sœurs qu'on n'a pas choisi. C'est beaucoup plus difficile. Quand vous en avez marre de votre vie, pensez à la nôtre. Ça vous donnera le moral, quoi. Eh bien, vous voyez, ce lien du Père qui aime le Fils et du Fils qui aime le Père, ça veut dire à la fois l'amour dans son dynamisme et à la fois l'amour dans sa capacité de recevoir. Eh bien, dans un couple, par rapport à son conjoint, on doit être les deux à des moments différents. On doit quelquefois être celui qui prend des initiatives dans l'amour, dans la vie du couple, dans les choix qu'on doit faire, et puis quelquefois celui qui doit recevoir. Et c'est important d'inventer, ça c'est, vous voyez, c'est un petit vieux dynamisme facile de dire... Si je prends trop de place, si mon conjoint me fait le reproche de temps en temps de prendre trop de place, ben comment je peux continuer à être présent en étant davantage serviteur, en recevant davantage, ou en suscitant des initiatives. Il y a des choses où les maris peuvent recevoir de leurs épouses et les épouses peuvent recevoir des maris. Des choses que les maris peuvent recevoir très facilement de leur épouse, c'est le génie de l'épouse de susciter des réflexions dans le cœur de son mari où, au bout d'un moment, il pense que c'est lui qui a eu l'idée. Le génie de l'Esprit Saint, ça, c'est... En fait, derrière le génie de la femme se cache le génie de l'Esprit Saint, qui nous donne des idées, on a l'impression que ça vient de nous, on dit... Ah, et puis, dans les dîners, vous voyez, allez, on parlait de ça le jour en couple, on raconte le mari aux amis, et j'ai pensé à ça, grand sourire de la femme, qui dit, ben, c'est moi qui t'ai dit. Voilà. On peut aussi... être dynamique dans l'écoute. Pas simplement dynamique en écrasant. Je te dis ce qu'il faut que tu fasses parce que je le sais mieux que toi. Et je peux aussi être à l'écoute tout en suscitant une écoute du côté de l'autre. Vous voyez, être à la fois source et à la fois récepteur ou réceptrice. Ça, c'est aussi une dynamique du couple très profonde qui est aussi une dynamique trinitaire. Et toujours dans l'amour. Une correction fraternelle, ça se fait dans l'amour, de dire à l'autre ce qui ne va pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans la vie. On est tous différents et on restera différents. Est-ce qu'on peut choisir cette altérité dans l'amour? Ce n'est pas évident. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Vous voyez la confiance que fait le Père à son Fils sur ce qui touche l'humanité et la vie de l'Église, eh bien... Le Père du Ciel, qui est la source de tout, a tout remis dans la main, a tout remis à l'autorité du Fils. Il y a un beau passage aussi en Jean 8, 18, où on voit bien que le Père et le Fils font tout ensemble. Jésus dit « Je suis à moi-même mon propre témoin. Et pour moi témoigne le Père qui m'a envoyé. » Il y a un double témoignage. Le témoignage, c'est Jésus qui le rend. Il rend témoignage au Père en nous révélant le Père. Mais celui qui... Et à la source du témoignage, c'est le Père qui lui rend témoignage. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. C'est le Père qui s'adresse au Fils, enfin aux disciples qui sont présents en parlant du Fils. Et je ne vous déploie pas tout, parce qu'on pourrait faire tous ces thèmes-là sur la manière dont Jésus nous fait connaître le Père et nous révèle... L'action commune du Père et du Fils, c'est dans l'amour, dans le témoignage, dans la connaissance, dans l'expérience. Il y en aura sûrement encore d'autres. Et tous ces lieux qu'on peut lire dans, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 15, Jésus nous montre que tout ce qu'il fait, il le fait avec le Père. Par exemple, Jean 10, 14, « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis. » Donc c'est Jésus qui parle de lui, la manière dont il nous connaît dans un amour. « Et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. » Et tout ce que Jésus va vivre par rapport à nous découle de son lien avec son Père. Donc notre amitié avec Jésus, elle n'est pas du tout extérieure au mystère trinitaire. Elle est, la manière dont Jésus nous conduit, elle est à l'image de ce qui se vit dans la Trinité. Et ça c'est totalement... incroyable et source de vitalité perpétuelle. Jésus nous fait non seulement connaître l'amour du Père pour nous, mais il nous révèle aussi la volonté du Père sur nous. Jésus nous dit en Jean 14, 12, « Je vais vers le Père ». En 16, 28, « Je suis sorti d'auprès du Père ». Et tout ça, ça culmine dans Jean 20, 17. Jésus qui dit à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Jésus partage cette paternité de Dieu sur lui avec nous. Alors, on le dit souvent de manière un peu simpliste ou un peu facile, mais on a du mal à comprendre le poids existentiel que ça veut, qui est caché derrière, c'est que Jésus nous fait entrer dans son lien de Fils éternel du Père. Jésus ne veut rien de moins pour nous que ce qu'il est lui-même. Il nous donne tout ce qu'il est, et pas simplement tout ce qu'il a. Ce que Jésus est, il est le Fils éternel du Père, et bien cette manière d'être Fils éternel du Père, éternellement regardé par le Père dans un amour infini qu'est l'Esprit Saint, et bien c'est ça que nous donne Jésus. Je monte vers mon Père et votre Père. Et pour qu'on soit sûr que quand on prie notre Père et à la messe, on va aller à la messe dans quelques instants, à l'office et à la messe, et bien Jésus ne nous donne rien de moins que cette prière qu'il a prié le premier pour que nous la prions avec lui. Quand nous disons notre Père qui est aux cieux, le premier qui a utilisé ces mots et qui a ouvert le cœur des croyants ensemble à la paternité de Dieu sur tous les croyants, c'est Jésus. Et donc notre prière ne peut être que la prière du Fils. Et c'est pour ça que dans la liturgie de la messe, chaque fois qu'il y a un moment important dans la fin de la liturgie, on dit « Par Jésus le Christ notre Seigneur ». Notre prière, toute la prière eucharistique s'adresse à Dieu le Père, et elle se fait toujours par la prière du Fils, dans le nom du Fils, dans le cœur du Fils. Que toute notre prière soit toujours la prière de Jésus. Et après, il faudrait travailler ça, mais on serait dans un week-end sur Thérèse de l'Enfant Jésus et plus sur Saint Jean, c'est regarder comment Thérèse de l'Enfant Jésus a bien compris ça et que elle va utiliser toutes les paroles de Jésus à son Père, Élisabeth de la Trinité aussi dans sa dernière retraite, pour dire à Dieu Père les mots que Jésus lui dit. Toutes les paroles, je vous parlerai un tout petit peu, et je vais arrêter maintenant, mais je vous redirai un tout petit mot en début d'après-midi avant de regarder, parce que ça sera peut-être le lien entre le Père et le Fils, j'aurai encore eu beaucoup d'autres choses à vous dire, mais ce qui n'est pas important, le plus important, ce n'est pas les citations que je vous donne, c'est de vous faire comprendre cette dynamique de Jésus qui, dans sa personne, nous révèle le mystère du Père. Et je vous donnerai quelques petites clés de lecture des différentes prières de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Jean, qui sont totalement incroyables et qui nous montrent que Jésus veut que nous prions avec son cœur. Et je finis par là pour vous donner juste un petit exemple de ce que ça veut dire pour certains saints. J'aime beaucoup la définition de la prière que donne Edith Stein, Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, cette juive convertie au christianisme, puis rentrée au Carmel, la première femme à avoir essayé de passer une habilitation en philosophie dans les années 20. Elle avait milité avec deux lesbiennes au début des années 20 pour le droit de vote des femmes qui n'était pas encore acquis en Allemagne. Et elle a fini au Carmel et elle a été déportée à Auschwitz. Et une des définitions de la prière que donne Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, c'est « Donner Dieu à Dieu ». C'est-à-dire, laisser Dieu habiter en soi, de telle sorte que, vous voyez, l'inhabitation de la Trinité dans l'âme, c'est ça, c'est que le Dieu trois fois saint vienne dans la petite humanité qui est la mienne, et pour les âmes de la Trinité, prier, c'est laisser ce Dieu qui vit en moi s'exprimer dans la prière, le Dieu qui est en moi lui permet de retourner vers Dieu Trinité qui est plus grand que moi. C'est le même Dieu, alors oui, il ne faut pas le réfléchir trop, mais donner Dieu à Dieu, c'est laisser la folie de l'amour de Dieu en moi pour ouvrir mon cœur à l'infini, à ce Dieu qui m'aime d'un amour infini. Alors, mais c'est, vous voyez, l'Eucharistie, ça sert à ça, la vie chrétienne, ça sert à ça. Donc, je peux vous donner des toutes petites bribes, et on pourrait en faire une semaine de retraite sur cette Trinité en l'Évangile de Saint-Jean, mais même les toutes petites choses que je vous dis là, j'espère qu'elles vous disent quelque chose d'incroyable, qu'on a du mal à vivre au quotidien, et qui pourtant est une lumière totalement renouvelante pour notre cœur. J'arrête là. Il y a l'office, à moins le cas, nous avons la messe. Ensuite à midi, et puis déjeuner, et on vous redonnera à la fin du déjeuner le programme pour l'après-midi. Alors essayons de rester dans ce silence et dans cette joie aussi. Peut-être qu'il faut, une des manières de vivre la Trinité, c'est de se regarder tellement aimé et de laisser Dieu nous parler comme ça cœur à cœur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.